en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir invité, de m'introduire en des termes aussi généreux, et je dois dire toute ma joie et mon émotion de parler en ce lieu auguste et d'être écouté par plusieurs personnes qui ont joué un grand rôle dans ma vie, à commencer par le recteur Saint-Cernin qui m'a, en plus d'un sens, ouvert la voie de la philosophie institutionnelle et dans sa substance, et aussi mon ancien président d'université et de très éminents collègues de ce qui s'appelle aujourd'hui l'université Paris-Sorbonne, et qui s'appelait encore, quand j'y suis entré, l'université Paris 4. Je vais donc lire mon texte, et effectivement, la question de la naturalisation, du naturalisme est la question clé. Je n'entends pas proposer un texte de vulgarisation des sciences cognitives. J'essaierai de les caractériser rapidement. Mais bien entendu, peut-être au cours de la discussion, si certaines de mes descriptions vous paraissent trop enveloppées, trop allusives, je serai évidemment très, très heureux de m'étendre davantage. Donc le titre de mon intervention est la suivante. Les sciences cognitives seront-elles naturalisées les sciences humaines? J'ai mis évidemment des guillemets autour de naturaliser. Et mon propos se divise en quatre sections, dont la première est position du problème. Sous différentes appellations, les sciences cognitives sont désormais bien visibles dans le paysage scientifique et dans les médias. Elles ne sont pas pour autant clairement identifiées. Se confondent-elles avec les neurosciences, visant à expliquer le fonctionnement du cerveau, avec la psychologie du développement, vouée à identifier le bagage mental du nouveau-né et l'ontogénèse de l'appareil mental, avec l'intelligence artificielle, une technologie informatique œuvrant à simuler les processus mentaux de base et compléter, sinon remplacer, l'être humain dans des tâches perceptives, motrices et intellectuelles au moins élémentaires, sinon plus élaborées. Reprennent-elles simplement, avec des outils plus raffinés, l'ordre du jour traditionnel de la psychologie, et se ramènent-elles, en fin de compte, à identifier certaines constantes du fonctionnement mental de l'être humain? Ont-elles partie liée à l'inéisme? Nous pouvons nous contenter provisoirement de dire que les sciences cognitives sont un peu tout cela à la fois, en repoussant la question à l'arrière-plan, quitte à y revenir selon que de besoin, pour nous concentrer sur l'essentiel. Quelle différence les sciences cognitives font-elles quant à l'avenir des sciences humaines? Par sciences humaines, j'entends, sans polémique, pour simplement avoir un terme rapide, j'entends ici l'ensemble de ce qu'on appelle les SHS, les sciences de l'homme et de la société. Et si la réponse à cette question, quelle différence les sciences cognitives font-elles quant à l'avenir des sciences humaines, si la réponse d'aventure était aucune ou fort peu, savoir ce que sont au juste ces sciences cognitives ne serait pas, dans la présente enceinte, d'une urgence particulière. Mais s'il en va autrement, si l'on a quelques raisons de penser que les sciences cognitives sont appelées à jouer un rôle croissant dans les sciences humaines, alors il importe de se demander si elles vont parvenir à leurs fins, s'interroger sur ces fins et examiner dans quelle mesure elles sont compatibles avec celles que se donnent les sciences humaines, si tant est que ces dernières procèdent d'une inspiration générale ou majoritaire. Je partirai d'une conjecture simple. Les sciences humaines sont hostiles au naturalisme. Les sciences cognitives sont une entreprise de naturalisation de l'humain. Ergo, les deux domaines s'opposent l'un à l'autre de la manière la plus frontale. Pour le dire autrement, selon cette représentation volontairement simpliste de la situation, à la question titre de mon intervention, les sciences cognitives seront-elles naturalisées les sciences humaines, beaucoup d'entre vous auraient probablement déjà répondu, soit sûrement pas, soit espérons que non. Mon but n'est pas de prendre le contre-pied en défendant à la fois les sciences cognitives et le naturalisme, mais de montrer que la question doit être prise autrement, d'en préciser les termes et de les modifier suffisamment pour ouvrir des perspectives nouvelles. Il faut d'abord préciser ce que j'entends par naturalisme. Le terme revêt des acceptions multiples, parfois incompatibles, et se charge de surcroît, dans bien des contextes, de connotations péjoratives ou laudatives. Le naturaliste est, primitivement, celui qui voit dans la nature l'origine et le lieu de toute chose, et dans le regard posé sur la nature, la source première de la connaissance. À cette altitude, le naturaliste par excellence est Goethe, l'Augenmensch, l'être de regard. Ce qu'il faut entendre par nature importe moins initialement que le fait qu'elle soit une. Le naturalisme est le rejet du dualisme, de toute forme de dichotomie considérée comme procédé facile pour éviter les vrais problèmes. De cette racine commune, deux grandes traditions sont issues. La première est ce que j'appellerais, le terme n'est pas, disons, classique, le naturalisme ordinaire, pour lequel la nature est ce à quoi renvoie notre condition d'être humain, organisme habitant un environnement, engagé dans un cycle de vie naturel, déployant naturellement le langage, doté de facultés naturelles, pratiques et en particulier mentales. La seconde forme de naturalisme est le naturalisme scientifique, celui auquel on se réfère aujourd'hui le plus souvent, au point d'omettre la plupart du temps le qualificatif scientifique. Ce naturalisme possède lui-même deux volets qu'on peut ou non associer. Le naturalisme ontologique se prononce sur la nature comme sphère de l'existant. Dans l'une de ses versions les plus répandues, le physicalisme, cette sphère est le domaine de la science physique. Le naturalisme épistémique, quant à lui, affirme que les sciences de la nature sont la seule voie d'accès à la connaissance authentique. Et par science de la nature, il faut entendre non seulement les disciplines actuellement cultivées dans les facultés des sciences, mais toute discipline existante ou à naître, abordant son objet par des méthodes semblables à celles des sciences de la nature d'aujourd'hui. Tout cela soulève des questions qui pourraient nous occuper jusque tard dans la nuit, mais que nous devons laisser de côté pour nous concentrer sur ce qui est le cœur du débat que je voudrais susciter, à savoir la thèse selon laquelle les sciences de la nature nous donnent accès à une compréhension scientifique des phénomènes humains et qu'elles sont les seules à le faire. En particulier, selon cette thèse, si, comme on est porté à le penser, les sciences humaines veulent développer une véritable science des phénomènes humains, elles doivent adopter, si ce n'est déjà fait, des méthodes semblables à celles des sciences de la nature. Tout cela pour en arriver là, demanderez-vous peut-être. Allons-nous vraiment poser une fois encore la question de la dichotomie, ou pour reprendre le terme de Chomsky, de la bifurcation entre deux types de sciences? Je vous rassure, nous allons inverser l'ordre de l'examen. Au lieu de partir d'une conception de ce qu'est une science de la nature et de ce qu'est une science humaine, et de juger de la thèse en question à partir de cette conception, nous partons d'une situation concrète, celle des recherches en cours, pour éclairer notre réflexion sur ce que pourrait être une science de l'homme et sur la part qui prendrait les méthodes, les approches développées aujourd'hui dans les différentes disciplines concernées. Si l'on veut que la discussion s'engage, il faut éviter de trancher prématurément. Imaginons en effet la scène suivante. L'un d'entre vous m'interrompt et me demande si je conviens que l'homme est un être libre, un être de projet, qu'il est situé dans un contexte historique, qu'il est façonné par sa culture, qu'il est un animal qui s'interprète lui-même, selon l'expression de Charles Taylor, etc. Et je réponds que oui, j'en conviens. Mon interlocuteur me demande alors, les sciences cognitives prennent-elles ces évidences pour objet? Et je réponds que non. Mon interlocuteur conclut alors à peu près ainsi. L'entité dont les sciences cognitives prétendent constituer la science n'est pas l'être humain auquel nous nous intéressons, mes collègues et moi-même. La naturalisation dont votre titre évoque l'éventualité est impossible, faute d'un objet commun. Que chacun vaque à son affaire, nous n'avons rien à nous dire. Ce serait aller trop vite. D'un côté, rien n'exclut que les sciences cognitives ou d'autres sciences naturelles de l'homme, nous allons y venir, sans partir des notions chères à mon interlocuteur, puissent les aborder à un stade avancé de leur enquête. Et de l'autre, ni mon interlocuteur imaginaire ni sans doute quiconque, ne songe à nier la constitution naturelle de l'homme. Nous sommes tous, à des degrés variables, amenés à jeter sur nos semblables et sur nous-mêmes le regard du médecin et de l'officier. Carcasse aussi, pour reprendre le terme du duc de Rohan. On peut entretenir l'espoir, qui a du reste longtemps nourri une certaine doctrine morale officielle, qu'un filtre puisse séparer nettement en chacun l'être naturel de l'être spirituel. Mais ce n'est qu'un espoir ou un idéal. La question est posée. Elle l'a été en cette enceinte même, récemment, lorsque votre chancelier a évoqué la place centrale des sciences morales et politiques en les situant, je cite, « à l'interface entre les sciences de l'homme et les progrès scientifiques », fin de citation, « chargé d'empêcher, je cite à nouveau, que le progrès scientifique, je modifie un peu, continue de dominer trop exclusivement les relations sociales et même la vie intellectuelle », fin de citation. Je ne parle pas d'autre chose, mais ce qui, pour Gabriel de Broglie, est un outil d'intelligibilité, à savoir la notion d'interface entre science de l'homme et ce qu'il appelle progrès scientifique, est pour mon propos le problème, la notion à interroger, non par l'analyse conceptuelle ou la réflexion éthique, mais à partir d'une conjoncture scientifique précise qu'il faut maintenant enfin examiner de plus près. Ma seconde section est intitulée « Les sciences cognitives, deux points, le premier projet d'une science naturelle de l'esprit ». Annoncée dans les années 1940, née 10 ans plus tard, baptisée 20 ans après, les sciences cognitives ont progressivement élaboré un cahier des charges auquel elles se tiennent encore pour l'essentiel aujourd'hui. Il s'agit pour elle de constituer une théorie, aussi intégrée que possible, des capacités mentales générales de l'être humain, considérées par elle-même et en tant que fonction du système nerveux central. La liste de ces capacités est ouverte. Elle comprend non seulement, à titre au moins provisoire, celles que l'observation ordinaire et la psychologie traditionnelle ont distinguées, depuis la perception jusqu'à la motricité, en passant par le langage et le raisonnement, mais aussi, d'une part, d'autres grandes capacités dites verticales, telles l'aptitude à établir des liens avec autrui, ou la navigation, la capacité de trouver son chemin dans un environnement plus ou moins familier, ou encore horizontales, telles la mémoire, l'attention, la catégorisation. Et d'autre part, des capacités au grain plus fin, la localisation d'une source sonore, l'identification d'un visage, la capacité de suivre un regard pour en identifier la cible, la saisie rapide d'un petit nombre d'objets, la détection de la causalité, la reconnaissance de l'agentivité, ainsi que des facultés personnelles, telles que le sens du soi ou les émotions. Les sciences cognitives ne reculent pas non plus devant les dimensions les plus énigmatiques de la pensée. L'intentionnalité, au sens philosophique du terme, ce en vertu de quoi les mots et les pensées renvoient à des entités ou états de fait, réels ou irréels, qui leur sont extérieurs. La conscience, le libre arbitre, la motivation, les valeurs, la croyance, la souffrance. Cette caractérisation sommaire des sciences cognitives ne nous dit rien de la manière dont l'entreprise est conduite, des succès qu'elle remporte, ni des difficultés qu'elle rencontre. Elle suffit cependant pour mettre en lumière les trois caractéristiques qui nous importent ici. La première est l'étendue illimitée du domaine qu'elle vise. Les sciences cognitives entendent s'emparer de la vie mentale dans son entièreté. Elles ne se limitent pas, comme on a pu longtemps le penser, aux opérations élémentaires de la cognition dite parfois « froide », celles que mesurent, par exemple, les tests de quotient d'intelligence, ni, à l'inverse, aux réflexes qui sous-tendent certaines fonctions primitives sans avoir d'incidence sur les processus supérieurs, notamment volontaires. Elles ne se cantonnent pas non plus à un niveau de description particulier, par exemple, celui des interactions neuronales ou, à l'inverse, celui des algorithmes informationnels. Il n'y a donc aucune raison de douter qu'elle vise à construire une science naturelle du mental sans respecter quelques frontières traditionnelles que ce soit. En ce sens, S'il est vrai que les sciences cognitives s'inscrivent dans le droit fil de la psychologie scientifique née au XVIIIe siècle, leur portée épistémologique et leur potentiel naturalisant, si je puis m'exprimer ainsi, sont d'un ordre de grandeur supérieur. Pour le dire trop vite, la psychologie avait le choix, jusque-là, entre l'étude naturaliste des bases réflexes de la cognition et l'étude des processus supérieurs, menée en pratique et malgré les ambitions premières d'un Freud, très au large de l'option naturaliste, quand elle n'y était pas franchement opposée. L'économie, les sciences politiques et morales dans leur ensemble sont invitées par les sciences cognitives à réviser, de fond en comble si nécessaire, leurs hypothèses sur les motivations, les raisonnements, les choix et les plans d'action des agents. La deuxième caractéristique des sciences cognitives est qu'inversement, l'empire qu'elles revendiquent n'excède pas les limites de l'individu. Sans doute la dimension sociale a-t-elle rejoint, depuis une vingtaine d'années, leur ordre du jour. Mais c'est sous la forme d'une « faculté sociale », entre guillemets, en vertu de laquelle l'individu, dès ses premières heures de vie, s'oriente vers autrui d'une manière spécifique, qui diffère de son rapport naissant aux objets ordinaires. Faculté qui se développe, vers 3-4 ans, en une théorie de l'esprit, c'est un terme technique, terme de l'art désignant l'aptitude à appréhender les croyances et désirs d'autrui. Ainsi, à jour récent, que ses émotions. Et à prédire, sur cette base, ses intentions et son comportement. Conjecturer correctement les intentions d'autrui est en particulier et de manière essentielle au fondement de la communication, dont il est évidemment difficile de sous-estimer l'importance pour notre condition. On demandera peut-être en quoi pourrait consister une plus entière prise en charge de la dimension sociale, sauf à renoncer à un individualisme méthodologique minimal qui fasse de l'organisme humain le siège de la pensée et la source causale première de la vie sociale, on ne voit peut-être pas sur quoi de plus il faudrait faire porter le regard. Question d'autant plus légitime que, longtemps, les sciences cognitives, elles-mêmes, n'ont pas songé à étendre le leur. Nous y viendrons dans un instant. Mais il faut encore dire ce qu'est la troisième caractéristique annoncée. Elle va également dans le sens d'une limitation. La connaissance qu'il s'agit de construire est de nature théorique. Ce sont les régularités de la vie mentale et des activités cérébrales sous-jacentes qu'il s'agit de mettre au jour. Les épisodes singuliers ne relèvent pas, du moins directement, des sciences cognitives. Prises ensemble, les options de l'individualisme et de la généralité érigent une frontière contenant les sciences cognitives et au-delà de laquelle, pourrait-on penser, se déploieraient sans contrainte les schèmes traditionnels des sciences sociales et des sciences historiques. Troisième section, le tournant darwinien. Le titre de la section précédente l'annonçait. Le titre était, vous vous souvenez, un premier pas, le premier projet d'une science naturelle de l'esprit. Donc, le projet dont il vient d'être question n'était qu'une première étape. C'est ce dont les spécialistes ont pris conscience, sans être nécessairement d'accord sur l'importance de la deuxième étape. Et en dehors de leur cercle, la nouvelle phase, qui ne date guère que d'une quinzaine d'années, n'a généralement pas été remarquée. Le point de départ pour cette deuxième étape a consisté en un renforcement de l'approche individualiste, ce qui peut paraître paradoxal vu que j'annonçais justement une extension au-delà. Mais dans un premier temps, ça a consisté à renforcer l'approche individualiste. À l'analyse à deux niveaux, neuronal et fonctionnel, de la structure de l'esprit, ce qu'on pourrait appeler, en détournant le sens du terme, sa physiologie, certains chercheurs se sont avisés, à la suite notamment du philosophe Daniel Dennett, d'ajouter la dimension phylogénétique. L'esprit et le cerveau sont, après tout, comme tout organe vivant, le produit de l'évolution. Et comme dans tout le règne vivant, la biologie évolutionniste complète les explications physiologiques. Elle peut nous permettre de comprendre pourquoi notre cognition est organisée comme elle l'est, à quelle fonction elle est adaptée et, à contrario, pourquoi elle semble malhabile à certaines tâches pour lesquelles elle n'a pas été, entre guillemets, bien sûr, conçue. C'est une application, au cas particulier de l'organe cognitif, de ce qu'on appelle parfois la maxime de Dobzhansky, selon laquelle rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de la théorie de l'évolution. Il s'agit, je le dis entre parenthèses, en réalité d'un contresens assez massif sur la pensée du grand généticien, mais l'idée elle-même, qui est l'interprétation habituelle de cette maxime, fait sens, et c'est d'elle que procède le tournant darwinien dont je parle. De cette idée, donc, est né un faisceau de programmes de recherche aux intitulés divers, allant de la psychologie évolutionniste à l'écologie comportementale, à l'éthologie humaine, et ainsi de suite. La psychologie évolutionniste, à laquelle je me tiendrai un moment, a le même objet, on l'a compris, que les sciences cognitives de la première phase. Cet objet, c'est l'esprit, vu comme ensemble des fonctions informationnelles du cerveau. Mais c'est en tant que produit de l'évolution biologique, au sens précis du terme, c'est-à-dire résultant de la sélection naturelle agissant par le biais du génome, que l'esprit est considéré. La psychologie évolutionniste s'inscrit, à n'en pas douter, dans la continuité de la sociobiologie, dont la presse, particulièrement dans notre pays, est aussi mauvaise qu'il est possible, plus mauvaise sans doute qu'elle ne le mérite. La psychologie évolutionniste se distingue néanmoins de cette sociobiologie principalement par le fait qu'elle ne cherche pas à expliquer directement les comportements, lesquels ne sont pas héritables et ne sont donc pas en eux-mêmes la cible de l'évolution, mais les structures cognitives dont ces comportements résultent. Dès lors que l'organisme est suffisamment complexe pour que ces comportements ne reflètent pas ces structures, la différence est essentielle. S'y ajoute la considération temporelle. Le cerveau humain dont nous héritons est venu à maturation sur le plan phylogénétique au cours du Pléistocène, qui diffère à de nombreux égards de l'environnement actuel. Quand nous cherchons à détecter les traits adaptatifs de l'esprit, c'est donc à des aspects pertinents de cet environnement primitif qu'il faut se référer. De ces prémices, la psychologie évolutionniste tire trois types d'effets. Premièrement, des hypothèses précises relevant essentiellement de la psychologie sociale, tout particulièrement, comme on peut s'y attendre, concernant la vie reproductive des individus des deux sexes, mais touchant également à d'autres domaines tels que l'agressivité et la criminalité, les comportements de groupe, les troubles mentaux, et ainsi de suite. Deuxième type d'effet, une hypothèse générale sur l'architecture de l'esprit, selon laquelle il serait formé, pour l'essentiel, d'un grand nombre de modules spécialisés, compris comme autant d'algorithmes permettant de résoudre rapidement et au mieux certains problèmes d'importance vitale. Éviter le danger, appréhender un partenaire possible, et ainsi de suite. Troisièmement, une orientation générale de la pensée, ou si l'on préfère, une grille de lecture qu'on peut qualifier de fonctionnelle ou d'adaptative, et qui consiste à poser, devant tout phénomène mental régulier, la question de savoir s'il remplit ou contribue à remplir une fonction adaptative ou s'il manifeste au contraire une contre-adaptation résultant de l'écart entre les conditions primitives et celles qui prévalent aujourd'hui ou encore s'il est l'effet d'une exaptation, c'est-à-dire du recyclage d'une structure mentale ou neuronale à des fins différentes de celles qui avaient conduit à sa sélection. C'est par exemple l'exemple favori de Stanislas Dehaene de l'Académie des sciences qui pense que les structures neurales sous-tendant la lecture sont résultent d'un recyclage. Il est clair qu'au Pléistocène, nous n'avons pas été sélectionnés pour apprendre à lire et à écrire, mais que ces processus sont aujourd'hui tellement automatiques et rapides qu'ils ne peuvent résulter que d'un recyclage neuronal. Le projet, les prémices et les résultats de la psychologie évolutionniste font l'objet de controverses particulièrement violentes, opposant non seulement les partisans de l'application de la théorie de l'évolution aux affaires humaines à leurs adversaires, cette polémique-là a commencé avec Darwin et ne s'est jamais éteinte, mais également les psychologues évolutionnistes à d'autres chercheurs et philosophes des sciences cognitives adhérents au naturalisme le plus résolu, et enfin entre elles les différentes écoles au sein du mouvement évolutionniste. Aussi auriez-vous quelques raisons d'estimer qu'il n'est pas urgent de vous préoccuper d'un éventuel impact de la psychologie évolutionniste sur vos propres travaux. Mon intention n'est pas de plaider en sa faveur, d'autant moins que, dans mon jugement, les réserves l'emportent, en l'état présent des recherches, sur les raisons qu'on peut avoir de les soutenir. En revanche, je voudrais à présent, comme je l'avais annoncé, ouvrir une perspective qui procède de l'orientation évolutionniste, mais me semble autrement prometteuse et pertinente pour les SHS et pour certaines recherches relevant de votre académie. L'une des énigmes les plus profondes auxquelles s'est heurté, très tôt la théorie de l'évolution est celle de l'altruisme. Comment un individu peut-il à la fois faire preuve d'altruisme alors qu'il sacrifie une part de ses chances au profit de certains de ses congénères, et propager ses gènes en sorte que l'altruisme continue d'exister dans les générations suivantes? Or, selon toute apparence, l'altruisme est un trait qui subsiste chez l'être humain, sans pour cela commander exclusivement, bien sûr, chaque décision de chaque individu. Une autre énigme concerne un phénomène apparenté, quoique distinct, celui de la coopération. Comment est-il possible qu'elle se maintienne, à supposer qu'elle ait pu s'établir au sein d'un groupe, alors qu'il est de l'intérêt personnel de chacun de tricher, c'est-à-dire de tirer le bénéfice de la coopération sans en payer le prix? Or, il est manifeste que la coopération non seulement se maintient au sein de l'espèce humaine, mais qu'elle joue un rôle essentiel et permanent dans la société et dans le comportement individuel. Si chacun ne coopère certes pas à tout moment, c'est sur fond d'une disposition à coopérer, naturelle, quasi universelle, que s'inscrivent les stratégies qui vont à son encontre. Ces questions, altruisme, coopération, communication, sont vieilles comme les disciplines que vous représentez, quoique jusqu'à assez récemment, elles n'aient pas été posées à partir de la théorie de l'évolution. Or, dans ce dernier cadre, elles ont reçu, non certes des réponses définitives, mais des esquisses de solutions qui, cette fois, ont une portée potentielle pour les sciences de l'esprit. Les plus novatrices d'entre elles mêlent étroitement la dimension individuelle et la dimension sociale en s'appuyant sur un cadre évolutionniste. Je m'explique. Appelons, pour les besoins de la discussion analytique, la stratégie consistant à dégager un modèle du fonctionnement de l'esprit individuel, puis à élaborer une théorie du social qui tienne pleinement compte de ce modèle. À cette stratégie, que j'appelle donc analytique, s'oppose ce que j'appellerais la stratégie holiste, fondée sur l'idée que, en un sens qui reste à préciser, la dimension sociale est constitutive de la cognition individuelle, en sorte qu'on ne peut justement pas procéder en deux temps. Cette idée est ancienne. Auguste Comte voyait déjà dans le social le seul niveau réel, l'individu étant une construction culturelle postérieure, littéralement une vue de l'esprit. Sans aller jusque-là, pour toute une tradition dans les sciences sociales, l'individu est essentiellement le vecteur, le reflet local de la réalité sociale ou encore le résultat de processus sociaux. C'est notamment en l'un de ces sens la thèse du culturalisme. Or, le culturalisme, sur la boussole des sciences sociales, est diamétralement opposé au naturalisme. Et de manière générale, les théories conférant au social un rôle déterminant dans la constitution individuelle s'opposent à l'individualisme méthodologique, auquel le naturalisme contemporain, sans s'y identifier, est fortement lié. Comment est-il donc possible que la stratégie holiste puisse être évoquée dans une perspective naturaliste, sinon comme repoussoir? Eh bien, qu'elle le soit, constitue une nouveauté dans l'histoire récente du naturalisme. L'explication est que, dans la nouvelle optique, le social imprime sa marque sur l'individu, non pas une fois que celui-ci est muni de son équipement cognitif final, mais au cours de l'élaboration de cet équipement. La stratégie analytique conçoit l'environnement adaptatif comme composé essentiellement du milieu physique et des populations voisines, animales et en particulier hominines, à la manière animale. La stratégie holiste suit au contraire de l'idée que l'environnement dans lequel l'homme moderne a émergé était pour une bonne part déjà social. C'est l'hypothèse dite du cerveau social. L'esprit et la socialité de notre espèce seraient mutuellement adaptés. Ce qui distingue cette thèse du simple constat que l'homme est un être social, ou encore que Homo sapiens est une espèce sociale, telle les termites ou les loups, ce qui distingue cette thèse donc de ce simple constat est que tant la constitution cognitive de l'individu que les formes générales de la socialité sont complexes et se répondent l'une à l'autre comme la serrure et la clé. La métaphore est certes très imparfaite car elle ne conserve rien de la flexibilité de l'esprit et de la variabilité des formes sociales que personne ne songe à nier. Mais elle marque les limites de la souplesse de part et d'autre. Ce ne sont pas des tabula rasa ou tabulé rasé. On conçoit généralement que la variation dans les formes sociales résulte de l'évolution culturelle. Il ne s'agit plus ici de l'évolution biologique par sélection naturelle sur les gènes, mais d'un processus par lequel un état de la culture, quelle que soit l'extension qu'on veuille donner à ce terme, se transforme en un autre, à génome constant, si l'on peut dire, selon les voies habituelles, quoique non élucidées, des interactions sociales. Alors qu'on pourrait penser, suivant l'antagonisme traditionnel entre nature et culture, que l'évolution culturelle échappe à la visée naturaliste, elle est au contraire devenue un thème central des approches évolutionnistes. Trois raisons contribuent à l'expliquer. La première est que les chercheurs impliqués s'intéressent au social, non en tant que domaine d'application d'une nouvelle science de l'esprit, les sciences cognitives, mais en tant que telle. Ce sont des spécialistes des sciences sociales et des sciences humaines et non pas, au premier chef, des spécialistes des sciences cognitives. Dès lors, ces chercheurs ne pouvaient détourner leur regard d'une évidence massive qui est celle de la pluralité des cultures et de leur transformation à partir d'époques anciennes dont beaucoup de traces nous sont graduellement révélées. En ignorant cette évidence, ils se seraient exclus de la conversation des sciences sociales. La deuxième explication est qu'il disposait d'une ressource explicative nouvelle, résidant précisément dans une perspective, propre cette fois aux sciences cognitives, sur les processus individuels responsables de l'évolution culturelle. L'être humain possède des capacités très particulières d'apprentissage et corrélativement de pédagogie, faisant intervenir notamment un mode d'imitation unique dans le monde animal, imitation de l'intention et non celle du mouvement brut, ou de l'objet à atteindre. Du fait de leur caractère fortement adaptatif, ces capacités ont contribué, selon toute vraisemblance, à l'émergence de l'espèce et confèrent à la socialité humaine certains de ses traits caractéristiques, parmi lesquels, justement, un haut degré de coopération compatible avec une certaine liberté des agents, liberté dont ne jouissent pas les loups ou les termites. Enfin, les naturalistes peuvent appliquer à l'évolution culturelle certains concepts et outils mis au point dans l'étude de l'évolution biologique, notamment des cadres formels susceptibles de préciser et, le cas échéant, de départager des hypothèses substantielles sur les processus impliqués. L'idée la plus neuve de tout ce courant est illustrée par l'exemple de la coopération. Les capacités éducatives de l'être humain, recouvrant à la fois ses capacités à enseigner et à apprendre, sont sous le contrôle du génome. Ces capacités ont été vraisemblablement sélectionnées, en partie, parce qu'elles favorisent la coopération. La coopération, à son tour, est une forme culturelle, au sens large, au sein de laquelle les individus naturellement coopératifs jouissent d'un avantage sélectif. Formes culturelles et génomes évoluent de concert. La sélection naturelle des gènes opère dans un paysage largement constitué par certains traits culturels et contribue en retour à façonner ces traits. Ce processus, appelé coévolution gène-culture, est au cœur de l'imbrication que j'annonçais, le fer de lance de la stratégie holiste. c'est aussi un cas particulier d'un phénomène plus général nommé « construction de niche », dont une illustration facile dans le monde animal est fournie par le castor. Mu par ses gènes, le castor construit des barrages, habitat à la fois naturel et construit, dans lesquels sa constitution de mammifère aquatique herbivore lui confère un avantage décisif. De même, la coévolution gène-culture serait, selon certains chercheurs, le processus fondamental qui singularise l'homme au sein du règne vivant et donne à sa trajectoire, des origines à la stabilisation relative de son génome et puis de ce moment de stabilisation à nos jours, les propriétés exceptionnelles qu'on lui connaît. Au sein du courant holiste, le philosophe Kim Sterelny, philosophe australien, a fait œuvre à la fois scientifique et philosophique en proposant une vue synthétique mais détaillée de l'émergence de Homo sapiens. Tout en s'appuyant sur le cadre néo-darwinien, cette vue synthétique se distingue aussi bien de la plupart des théories paléo-anthropologiques que de la psychologie évolutionniste, en rejetant deux idées apparentées. Celle d'une cause naturelle unique de la divergence de notre espèce des autres lignées hominides et celle de mécanismes naturels fixes caractérisant notre appareil cognitif actuel. Pour Sterelny, l'histoire qui nous a fait et l'histoire que nous faisons résulte d'une série de confrontations avec des environnements variables, favorisant l'émergence d'une capacité d'apprentissage très particulière, reposant à la fois sur des sciences physiques et sur des processus proprement humains de pédagogie naturelle. Cette conception est en un sens naturaliste de part en part, en ce qu'elle ne prend sens que dans le cadre évolutionniste, et parce qu'elle mobilise de manière récurrente des données, des concepts, des méthodes issues des sciences de la nature. Mais elle est aussi historique et culturaliste, plaçant au centre de sa démarche, d'un côté, les contingences de l'histoire des hominines, en particulier la variabilité même de leur environnement physique et les hasards combinés des petites variations dans l'organisation sociale primitive. Et de l'autre, l'évolution culturelle comme moteur des transformations de l'homme moderne. Quatrième et dernière section, la naturalisation est-elle en marche et de quelle naturalisation s'agit-il ? Quelle réponse apporter à la question qui donne son titre à la présente communication ? Le temps ne permettait pas de proposer à la fois un tableau des recherches en cours et une discussion approfondie des perspectives philosophiques qu'elles ouvrent. J'ai fait pencher la balance du côté de la description. Pour la raison que j'énonçais en commençant, je souhaitais ouvrir la discussion, non la clore par un plaidoyer pro ou contra, appuyé sur une conception générale trop floue de ce que visent les recherches en cours et des moyens qu'elles mettent en œuvre. Reprenons alors la question titre pour en reconnaître d'abord le caractère ambigu et incongru. Selon le bon usage, naturaliser les sciences humaines consisterait soit à les empailler, soit à les transplanter dans les sciences cognitives et les y acclimater. Ce n'est évidemment pas ce qu'il faut comprendre. Ce qu'on cherche à savoir, on l'aura compris, c'est si sous l'effet des sciences cognitives, les sciences humaines vont se transformer à terme en sciences de la nature. En particulier, il n'est pas question que les sciences cognitives absorbent par réduction ou élimination les sciences humaines. Il n'est pas non plus, en d'autres termes, je ne suis pas, Jean-Pierre Changeux. Il n'est pas non plus requis d'avoir au préalable tranché la question de savoir si l'homme, avec tout son bagage, est inclus dans l'ordre naturel. Ce qui est proposé, on l'a dit, c'est d'inverser l'ordre des questions. Ce que les sciences cognitives nous révèlent de l'homme, ou sont en passe de le faire, nous permet-il de faire progresser, à l'aide des méthodes caractéristiques des sciences de la nature, les questions que se posent les sciences humaines. En d'autres termes, quelle est au juste l'opération qu'elles accomplissent ou sont en passe d'accomplir ? Quels sont les effets de cette naturalisation ? L'intention naturalisante des sciences cognitives, je me répète ici, ne fait évidemment aucun doute. Elle est inscrite dans leur définition même et diversement justifiée tout au long de leur histoire. Elle recouvre néanmoins, et c'est le point ici, trois projets distincts, tant sur le plan général qu'au niveau des problèmes concrets effectivement posés. Le premier projet vise à mettre au jour le réseau des opérations informationnelles auquel équivaut l'esprit en tant qu'il pilote, pour ainsi dire, les comportements intelligents de l'être humain. Le deuxième veut rendre compte du fonctionnement du cerveau. Le troisième cherche à ramener l'esprit à un organe évolué, c'est le terme technique, résultant de l'évolution, fruit de la sélection naturelle, en identifiant ses fonctionnalités de base à partir des problèmes qu'il a plausiblement dû résoudre pour permettre à l'espèce de prospérer. S'ils sont compatibles et peuvent être considérés comme des heuristiques complémentaires au service d'un seul et même problème, ils ne partagent pas les mêmes engagements ontologiques et sont généralement loin de converger effectivement. En particulier parce que là où l'un de ces trois programmes remporte un succès, les deux autres souvent ne progressent guère. Ce qu'on pourrait appeler la stratégie polynaturaliste des sciences cognitives est ainsi à la fois plus et moins puissante qu'une naturalisation par une seule voie. Une comparaison avec les approches scientifiques de l'organisme le montre bien. L'organisme humain, peut être étudié aussi bien à un niveau fonctionnel abstrait qu'à celui de l'anatomie et de la physiologie, ou encore dans la perspective évolutionniste. Et ces trois approches se complètent. Mais le succès est assuré par le fait que le caractère naturel de l'organisme est antérieurement acquis. C'est ce fait qui garantit la convergence, par-delà les hésitations et les lacunes de chaque programme. Dans le cas de l'esprit, ce n'est précisément pas le cas. Le but est à l'inverse d'établir son caractère naturel sur la base de ce triple programme, dont la convergence, si elle se produisait, serait un puissant argument en faveur de l'hypothèse naturaliste. Or, non seulement, on l'a dit, cette convergence semble s'inscrire dans l'hypothèse la plus optimiste, dans un horizon lointain, mais chacun des programmes de recherche présente des fragilités dont on ne peut faire entièrement abstraction. Un bilan équilibré n'est pas possible. Ici, il serait en tout état de cause controversé. Là où certains voient crise, les autres voient signe de vitalité, témoignage d'une nouvelle maturité. Mais dans la perspective que je vous soumets pour conclure, ces différences d'appréciation sont d'importance secondaire. Plutôt que d'attribuer aux sciences cognitives et aux approches évolutionnistes du social qui leur sont associées, l'objectif ultime de prouver la naturalité de l'humain, comprenons-les au niveau métathéorique comme une élucidation. Elle nous révèle graduellement en quel sens précis l'être humain peut être intégré dans le tableau scientifique du monde naturel. En d'autres termes, ce qui nous est progressivement dévoilé, c'est ce qu'il faut entendre par naturalisation, celle de l'humain et corrélativement celle des sciences humaines. Le principal enseignement que nous pouvons tirer de l'histoire récente, selon moi, est que, loin d'être fixé une bonne fois, par référence à on ne sait quelle essence de la nature ou des sciences de la nature, la naturalisation de l'homme coévolue avec les sciences naturelles de l'homme. À mesure que celle-ci progresse, celle-là revêt des formes nouvelles. En l'occurrence, nous constatons que l'être humain incorpore l'histoire de l'humanité, une histoire certes naturelle, mais qui n'en est pas moins historique, donc contingente, et que sa condition actuelle, pour intelligible qu'elle soit dans la perspective naturaliste, n'en est pas moins l'aboutissement de l'évolution culturelle, le fruit de l'accumulation de ce que Sterelny appelle le capital social. Ce naturalisme historicisé ne fera certes pas l'unanimité des naturalistes. Le titre de mon ouvrage est précisément « Le naturalisme critique ». Donc je n'ai pas que des amis parmi les naturalistes. Donc ce naturalisme historicisé ne fera certes pas l'unanimité des naturalistes, que ce soit sur le plan descriptif ou prescriptif. C'est pourtant celui qui me semble résulter d'un examen du paysage scientifique et celui aussi qui me semble devoir être défendu à titre d'heuristique pour les sciences humaines. Est-ce à dire que celles-ci peuvent l'admettre sans discussion, sans réviser ou infléchir leur choix méthodologique? Comme elles sont plurielles, la réponse varie de l'une à l'autre. Mais beaucoup de chemin reste à parcourir pour trouver un accord général. Sur certaines des grandes questions, le courant naturaliste et l'opinion majoritaire au sein des sciences humaines continuent de s'opposer. L'espoir est que les deux camps, au lieu de se vouer, comme elles l'ont longtemps fait, une hostilité bougonne, rechercheront activement un cadre théorique englobant, construit sur des bases tant empiriques que conceptuelles, que nous commençons seulement à entrevoir.